La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, bienvenue. Premier jour d'une nouvelle série de la Compagnie des auteurs. Premier jour consacré à l'écrivain espagnol Georges Samprin. Né à Madrid en 1923, Samprin n'a cessé de faire des allers-retours d'un côté à l'autre des Pyrénées. Et c'est à Paris qu'il mourra, dans sa ville d'adoption, en juin 2011. Outre ces deux pays d'Europe, c'est bien sûr l'Allemagne nazie qui aura fait basculer son destin avec les longs mois passés à Buchenwald, dont les souvenirs transformés en littérature constitueront l'essentiel de son œuvre. Une œuvre dont le grand voyage et l'écriture ou la vie constituent les sommets. De cette expérience des camps et de ses conséquences, il sera question demain. Ce sera avec l'universitaire Maria Ruiz Galdet. Mercredi, la question de la torture et celle de la résilience seront au cœur d'une émission en deux parties. Régis Debray viendra tout d'abord nous parler du livre de Samprin, « Exercice de survie » qu'il a préfacé chez Folio. Puis la chercheuse Corinne Benestroff nous parlera du travail de deuil que peut, ou pas, permettre l'écriture. Et puis jeudi, ce sont des lecteurs et des spectateurs de Samprin dont il sera question. D'abord avec Françoise Nicolazzi qui a réalisé une étude sur le lectorat de l'écrivain espagnol. Et puis ensuite avec Costa Gavras qui a travaillé avec lui sur les scénarios de trois de ses films et notamment sur Z. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre traditionnelle émission introductive et biographique. Je reçois Gérard de Cortanze. Il est romancier, poète, essayiste. Il a écrit sur Solers, Le Clésio, Paul Auster ou encore sur le peintre Antonio Saura. Et donc, évidemment, aussi sur Georges Samprin dans un livre publié en 2004 en Folio Gallimard et dont le sujet pourrait bien être « Samprin à la recherche de Samprin ». Il va nous dire tout cela. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Tout le monde sait plus ou moins, sans faire d'efforts, où il est né, quelle langue il parle, quels sont ses rapports avec sa famille. Évidemment, je parle des gens, des situations normales, bien entendu, en dehors des guerres, des révolutions, etc. Où aller chercher les photos de grand-père, de grand-mère. Moi, je ne sais rien de tout ça. La guerre civile a balayé complètement toute trace matérielle de l'enfant, c'est-à-dire que je n'ai pas une seule photo de ma mère. Après, l'arrestation par les Allemands, par la Gestapo, a fait que toute ma bibliothèque de... Bibliothèque, c'est un grand mot peut-être, mais enfin... Tous mes livres d'adolescents ont disparu aussi, avec tous les papiers personnels, toutes les photos que je pouvais avoir de l'autre part, tout. Et puis il y a la longue période de la clandestine Espagne, où il n'était pas question d'avoir des papiers personnels, pas question d'avoir des photos, pas question de garder des traces de sa propre existence, et de passer tous les 6 mois à s'habituer, tous les 3, 4, 6 mois, ça dépendait du rythme et de la sécurité qu'il fallait assurer, à changer d'identité, donc à assumer... toutes les réponses possibles à des questions, une vie.
Georges Samprin au micro de Thierry Planel, c'était en 1986. Bonjour Gérard de Cortanze.
Bonjour.
Nous allons parler dans cette émission de la vie de Samprin, mais plutôt, peut-être faudrait-il dire, des vies de Samprin, puisque on vient de l'entendre, il a revêtu tour à tour diverses identités. Et beaucoup de ces identités ont disparu, ou en tout cas, les signes tangibles de ces identités ont disparu. C'est presque comme si certains pans de sa vie, Gérard de Cortanze, n'avaient jamais existé.
Si on reprend, je suis assez ému en l'entendant, parce que en fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu quand même. Si on reprend l'interview, il dit quelque chose d'absolument fondamental. C'est la chose suivante. Tout ce qui a disparu de sa vie. Imaginez un petit garçon qui a 13 ans, qui quitte Madrid en 1936 et qui ne reviendra à Madrid, on en reparlera, qu'en 53, clandestin. Mais en fait, l'appartement est totalement dévasté. À la suite de la guerre d'Espagne, l'appartement qui est dans un quartier bourgeois est dévasté.
Il est pillé, en fait.
Il est absolument pillé. Et il dit une chose intéressante, il dit qu'il n'a pas de photo de sa mère. En fait, on en reparlera aussi, il y a un nœud, un problème avec la mère. Je vais vous donner, je vais raconter une petite anecdote. Le livre sort, celui dont vous avez parlé, Semprin est invité par Bernard Pivot, apostrophe. Bernard Pivot, alors qu'il interviewe Semprin, qu'il parle avec Semprin de son parcours, passe derrière lui des images, et notamment on voit une image d'une femme très belle qui a fait la couverture de l'ABC, le journal espagnol, dans les années 30, et il dit « Ah, c'est une photo de votre mère ». Et Semprin dit « Non, 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 pas du tout, pas du tout, c'est une erreur, c'est ma tante, c'est une erreur de la personne qui a écrit le livre ». L'émission continue. Une fois l'émission terminée, je lui dis, mais enfin, tu es gonflé quand même, quoi. Tu sais très bien que c'est ta mère. Elle me dit oui, mais.
Vous n'avez pas osé le contredire en direct.
Ah non, je ne pouvais pas. Mais, tu sais bien, non, non, ce n'est pas possible. Et alors, quand on a réédité le livre en folio, si vous regardez la légende de la photo de cette femme, il était vivant. Lorsqu'on a réédité le livre, il a voulu voir le cahier photo et on a mis la tante de Georges Semprin. Mais je peux confirmer que c'est sa mère.
Mais pourquoi? C'était pour conserver la légende de ces photos disparues, de cette enfance disparue aussi d'une certaine façon.
Sa mère est morte alors qu'il avait 9 ans, hein. D'une façon tout à fait stupide, ridicule, une septicémie, enfin voilà.
Quelques années, très peu d'années avant l'invention des médicaments qui auraient pu la sauver.
Exactement. Et cette mère, comme il le dit souvent dans les livres d'ailleurs, c'est une mère totalement mythique. Elle est très belle, c'est un couple de bourgeois, ils vont à des soirées, ils vont à des dîners, ils vont à l'opéra. La mère ne quitte jamais l'appartement sans embrasser ses enfants, elle en a 7, mais c'est très furtif. Et il dit, alors il y a un parfum, il y a une odeur, il y a un bruit, elle est toujours habillée, avec des robes somptueuses, des colliers, pour moi, ma mère, c'est ça. Et il y a un très très long couloir par lequel elle s'échappe. Elle va à ses soirées, à ses dîners. Et au fond, dit-il, toute ma vie, j'ai essayé d'aller au bout de ce couloir et je n'ai jamais atteint la fin du couloir. Donc c'est très psychanalytique, ce rapport à sa mère disparue beaucoup trop tôt et qui est remplacée. Et ça, il n'a jamais accepté, qui est remplacée par une de ses gouvernantes.
La Suissesse.
La Suissesse, qu'il appelle la Suissesse, Fraulein, parce que c'était les gouvernantes allemandes, et qui prend la place de sa mère. Et j'ai vu des photos sur lesquelles, comment dire, la tête de la Fraulein Suissesse était découpée. Il y avait les enfants, mm-hmm. Il y avait le père, mais la Suissesse avait disparu.
On va revenir à la biographie Gérard de Cortance, mais j'aimerais d'abord vous demander, quand vous avez écrit ce livre, Georges Semprin, l'écriture de la vie, c'était donc du vivant de Georges oui. Semprin, ça a dû être difficile pour vous, vous qui le connaissiez bien, d'écrire ce livre sur quelqu'un qui était votre ami et qui allait forcément le lire.
Oui, alors c'était un peu le challenge, et puis on est parti de ce point de départ. Je lui disais, ce que je ne disais pas à l'éditeur, si le livre ne te plaît pas, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, si dans les interviews tu as estimé que tu allais beaucoup trop loin, que tu as révélé des choses que tu ne voulais pas révéler, le livre ne sortira pas. Ça, c'était le point de départ. Donc, effectivement, il a tout relu, mais à la fin du livre, il m'a dit « Écoute, il y a plein de choses qui sont fausses, c'est vraiment de la littérature, mais en même temps, c'est tellement vrai qu'on va les garder. » Et je ne sais toujours pas aujourd'hui, évidemment, quelles sont ces choses qui sont fausses.
Les choses qui sont fausses, Gérard de Cortance, c'est ce qu'il vous a dit et qui était un mensonge, peut-être.
Oui, mais ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'en fait, c'est Vargasiosa qui dit ça. Il atteignait la vérité par le mensonge. Il y a des descriptions de son départ de, lors de son retour en Espagne, dans les années 50, donc la dernière fois qu'il quitte Madrid en 62, et qu'il ne reviendra après qu'en 1967. Hein. Il y a les descriptions de promenades dans Madrid, la nuit. Il m'a avoué après qu'elles étaient fausses.
Ça, c'est tous les écrivains, non? Ou la plupart,
oui,
des écrivains?
Mais c'est s'emprunt, c'était ça, en fait. C'était ça. Mais elles sont tellement vraies, et on sent, comment dire, en même temps, dans ces descriptions des rues qui sont fausses, on sent tellement l'atmosphère madrilène, la nuit, un peu chaude, certains mois d'août, au mois de juillet, les fontaines, les gens qui sortent des restaurants, les gens qui se promènent dans les rues, qu'on y est totalement, et on se dit, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé.
C'est finalement plus vrai que la vérité. Alors la famille Gérard de Cortance, c'est une famille prestigieuse, la famille s'emprunt, notamment du côté maternel.
Du côté matériel, Antonio Maura Montaner, qui est le grand-père maternel, qui est un ministre d'Alphonse XII. Donc, une partie monarchiste. L'autre partie, c'est l'oncle qui est Miguel Maura. Et Miguel Maura, c'est le créateur de la Seconde République, le premier ministre de l'Intérieur de la République espagnole. Et donc, c'est, comment dire, ce passé politique a totalement fabriqué le petit garçon qu'il était.
Il est... Qui pourtant deviendra communiste. Il n'y a pas de communiste, il y a des républicains dans sa famille.
Il y a des républicains, mais alors c'est le grand paradoxe, et ça il s'en amusait beaucoup, le jour où la République arrive au pouvoir, où le Front Populaire arrive, en quelque sorte, arrive au pouvoir, la mère, qui est de gauche, met les étendards, des drapeaux, sur son balcon, et dit-il, dans ce Madrid-là, c'est le Madrid bourgeois, près du Retiro, c'est la rue Alphonse XI.
Ne finissez pas votre phrase, c'est sans
prendre. C'est lui qui va la finir, d'accord.
Ma mère, c'était cette image maternelle d'une très belle femme, tout ce qui est banal, disons, d'une certaine façon, tout ce qui est commun. Mais c'est aussi quelqu'un qui a joué un rôle décisif sur un plan, disons, politique ou historique. Mmh. Parce que c'était dans ma famille maternelle, monarchiste, conservatrice et réactionnaire, mon oncle et elle, c'était les deux seuls qui étaient républicains. Je parle de la République de 1931. Et elle m'a sidéré pour toute ma vie. Le 14 avril 1931, cette mère belle qui était un exemple de luxe et de calme que d'autre chose, en mettant aux fenêtres de cet énorme appartement de l'enfance dans le quartier résidentiel de Salamanca, qui est toujours le quartier résidentiel, le drapeau républicain. Et je garde le souvenir de l'effroi, parce que les enfants n'aiment pas se distinguer de l'effroi que ça provoquait, et puis l'orgueil de voir, la satisfaction de voir qu'elle osait faire ça, et le bruit de tous les volets, toutes les rues adjacentes, on était à un carrefour, comme ça, toutes les volets qui se ferment, parce que tous ces bourgeois ne veulent pas voir le drapeau républicain. Et ce bruit des volets qui se ferment, et ma mère très fièrement posant le drapeau, l'oriflamme républicaine aux fenêtres de cet appartement, c'est un souvenir qui est décisif.
Donc ça c'est vrai alors?
C'est absolument vrai, j'ajouterais Miguel Maura, donc l'oncle, qui prenait un malin plaisir lorsqu'il décrochait le téléphone et qu'il savait que c'était un monarchiste, ce qu'il l'appelait, à fredonner ou à siffloter la Marseillaise.
On savait rire aussi dans cette famille.
Ah, mais s'emprunt était quelqu'un d'extrêmement drôle. Une autre anecdote. On passe un petit peu les années, il est ministre. Il est à côté du roi Felipe González. Ils reçoivent tous les deux la reine d'Angleterre. Il y a une photo célèbre qui est sortie dans la presse à ce moment-là, où on voit le ministre de la Culture, Georges Champrun, et Felipe González, absolument morts de rire tous les deux, avec un sourire ravageur, parce qu'il était très beau, Georges Champrun, sur le visage de Georges Champrun. La presse se demande, mais qu'est-ce que cet ancien communiste et qu'est-ce que ce roi monarchiste peuvent se dire pour rire à ce point-là? Et il y a eu des théories toutes plus, invraisemblables les unes que les autres. Mmh. La réponse, la voilà, vous la connaissez peut-être. Très bien. La reine d'Angleterre sort de sa voiture et s'emprunt du roi. Putain, le chapeau. Voilà. Et c'est voilà. Et s'emprunt, c'était ça. Il était capable, comment dire, de, alors qu'il est en fonction ministérielle, on ne peut plus guinder à ce moment-là. Avec le roi à rire de cette façon-là.
Mais justement, comment, pour vous, la trajectoire jusqu'au communisme, on en reparlera au cours de cette émission, mais bon, puisque on commence à mélanger les décennies,
voilà.
Comment la comprenez-vous par rapport à cette enfance extrêmement bourgeoise ?
Alors, d'abord, il dit je suis un communiste dilettante peu assidu. Ce qui veut bien dire la distance qu'il prend avec ça. Il a fini par démissionner du Parti communiste, par quitter le Parti communiste. Mais en réalité, c'est dans le droit fil de cette famille républicaine de l'oncle et de la mère.
C'est-à-dire il est de cette partie-là de la
oui,
famille.
Ah oui, il est dans cet engagement politique total. Ça, c'est pour lui, c'était essentiel dans son existence. Alors, le Parti communiste dans un premier temps, mais l'engagement à gauche et l'engagement humaniste dans un deuxième temps.
Alors, Marcel Proust, ça n'est pas un auteur qu'il va lire beaucoup, et précisément parce qu'il a l'impression qu'en lisant Marcel Proust, il lit la chronique de sa famille, Gérard de Cortance.
Oui, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire cette bourgeoisie madrilène... fin 19e, début 20e. Et d'ailleurs, ces auteurs, vous savez qu'il a appris. C'est une famille qui parle plusieurs langues, évidemment. Mais d'abord, on apprend l'allemand dans cette famille espagnole.
Avec puis, notamment les gouvernantes, les jeunes gouvernantes.
Et en lisant Fenimer Cooper en allemand. En lisant Heidi, évidemment, dans le texte, en allemand. On apprend aussi l'anglais. Et assez peu le français, parce qu'on pense que le français, de toute façon, comme on passe des vacances tout près de la frontière française, les vacances d'été, c'est une langue qu'on va apprendre facilement, parce que c'est une langue qui a beaucoup de proximité avec l'espagnol. Et en fait, il va apprendre, lui, le français, en lisant Delhi. Donc, si on parle des lectures d'enfance, par exemple, ça c'est très intéressant, parce que c'est Sartre qui a écrit un texte passionnant sur ça, sur les lectures d'enfance qui permettent de définir assez bien les gens. Carlos Fuentes va lire certains textes, Vargas Llosa va lire certains textes, Sartre d'autres. Eh bien, Semprin va encore en lire d'autres. Et c'est tout à fait étonnant. C'est pas du tout les lectures d'enfance classiques d'un fils de bourgeois espagnol de cette année-là. Il va lire Zévaco. Il va lire Zane Grey, qui est un auteur américain qui écrit ce qu'on appelle, ça a complètement disparu aujourd'hui, des romans de frontières, c'est-à-dire sur les cowboys, en fait. Voilà. Il lit des choses comme ça. Et il va lire Heidi, qui est tout à fait étonnant pour un garçon bourgeois espagnol de cette époque-là.
Est-ce qu'il lit aussi Garcia Lorca? Parce que Garcia Lorca fait partie des personnes qui vont visiter son père, un homme aussi très cultivé.
Absolument.
Il le voit, il le rencontre.
Oui, parce que le père, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais le père a un rôle aussi très très important. Il a des convictions, le père, c'est-à-dire qu'il ne retournera, alors qu'il aurait pu le faire, il ne retournera jamais en Espagne tant que Franco sera au pouvoir, il mourra avant la mort de Franco. Il partira à La Haye, dans l'élégation espagnole à La Haye. C'est lui qui va entraîner sa famille, au fond, dans ce périple France-La Haye, puis retour en France. Mais au départ, cet homme est un avocat, lettré, qui écrit des poèmes.
Qui aime la peinture.
Qui aime la peinture, qui tous les dimanches emmène son fils au Prado. Et tous les dimanches... s'arrête devant un tableau, sauf les Rubens, parce qu'il y a trop de nus féminins et ça ne supporte
pas. Oui, il est très prude, en effet.
Il est très prude. Et il va, dit Semprin, lui raconter l'histoire de l'Espagne. Donc il y a un côté pédagogue, un côté engagé, un côté très, très, très droit dans l'image du père. Et on retrouve ça chez Semprin, cette espèce d'honnêteté fondamentale.
On va au Prado, on va aussi au cinéma, beaucoup en famille.
Alors on va oui, c'est une époque où on allait beaucoup au cinéma. Et alors il n'allait pas voir que des grands films. D'ailleurs, il n'allait voir que au fond, les films qui étaient, comment dire, visibles par des enfants. Mais il y a une histoire que vous connaissez, c'est le film Mazurka, hein, avec Paula Negri, parce que là, c'est l'actrice. Alors, le père et le fils, au fond, se partagent l'amour de cette actrice. Mmh. Ils sont tous les deux amoureux.
Ils s'en parlent?
Secrètement. Et ils s'en parlent, voilà. Et son prince supporte très très mal que son père soit lui aussi amoureux de cette actrice. Mais Mazurka, qui est un très mauvais film, qui est une sorte d'opérette autrichienne, jouera un rôle, puisque c'est ce même film qu'il a vu enfant et qu'il reverra à Buchenwald.
La compagnie des auteurs et nous parlons de Georges Semprin avec Gérard de Cortance. Alors le grand malheur bien entendu de l'enfance de Semprin, c'est la mort de sa mère alors qu'il a seulement 9 ans. On l'a déjà évoqué avec vous Gérard de Cortance. Et puis l'autre grand malheur, eh bien, c'est l'arrivée de Franco. Il l'a vu venir si l'on peut dire, puisqu'en octobre 34 il va assister à la mort d'un manifestant tué finalement par les divisions de Franco.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une manifestation à Plaza de Cibeles à Madrid, hein, si vous connaissez, c'est une espèce de grande fontaine comme ça avec la Cibeles et de l'eau qui tombe en pluie, et il assiste à la mort de cet ouvrier qui est en bleu de travail. Et il y a une très belle description d'ailleurs dans ce livre de la mort de cet ouvrier qui va le poursuivre vraiment durant toute sa vie, et qu'il va d'ailleurs retrouver plus tard lorsqu'il expliquera qu'il a au bout de son fusil un soldat allemand et qu'il hésite à tirer. Il y a toute un chemin passionnant entre la vision de ce soldat qui est de cet anarchiste, mmh, qui est tué par la police, et la vision de ce soldat allemand qu'il tient au bout de son fusil. Mais c'est un événement totalement fondateur.
Il va décider finalement de tirer.
Ouais. Bien sûr. Mais c'est un événement totalement fondateur, et c'est un événement politique. Sa conscience politique va aussi naître de cet assassinat de l'ouvrier anarchiste.
Donc, le 18 juillet 36, c'est le coup d'État de Franco, coup d'État qui ne fonctionne pas totalement, mais qui entraîne la guerre d'Espagne. Et le 12 septembre, la famille part aux Pays-Bas. Ils vont rester aux Pays-Bas quelques années.
Oui, mais alors, avant, ce qui est intéressant, c'est le départ de la famille. C'est-à-dire, lorsque la famille part dans leur maison à Santander, en fait, le coup d'État qui a eu lieu, mais on ne sait pas encore quelle va être la suite de ce coup d'État. Donc, ils partent en vacances, ils laissent le fameux appartement, en pensant qu'ils vont rentrer, en fait, une fois les vacances terminées. Mmh. Et bien entendu, victoire de Franco, ils ne rentrent pas, ils prennent un bateau, Bayonne, Bilbao, ils vont, le père va émigrer à La Haye, puisqu'il fait partie de la légation espagnole en exil à La Haye.
Et après, ce sera Paris.
Après, ils viendront à Paris où, comme vous le savez, il intègre le lycée Henri IV et... Pardon.
Moi, je suis heureux de cette décision de mon père de rester en France, parce que, bon, au Mexique, j'aurais continué à être... la langue aurait été la même. Je n'aurais pas eu cette joie et cet enrichissement qui a été pour moi l'autre langue, c'est-à-dire celle qui est devenue ma langue d'écriture la plus habituelle, le français. Mm-hmm. J'aurais continué, si j'avais écrit, j'aurais écrit en espagnol, il y aurait une continuité. Ça aurait été très différent. Il n'y aurait pas eu la résistance, il n'y aurait pas eu l'expérience des camps, qui avec tout ce que l'a comporté de négatif et de dur, est quand même une expérience formatrice, de formation. Non, et donc j'aurais eu un exil tout à fait différent si mon père était parti au Mexique.
Vous avez reconnu la personne qui fait derrière cette interview? Eh bien, c'est vous, Gérard de Cortance, dans une émission que vous avez produite pour France Culture, Un livre des voix, le 3 avril 1998, vous en souvenez?
Maintenant, oui.
Maintenant, oui. Donc, c'est une archive où il parle de l'exil en France et il dit cette chose, que finalement, l'exil, c'était une bonne chose. Même à la limite, la déportation, d'une certaine façon.
Oui, alors, il parle aussi de la langue. Hein. Et Juan Goytisolo, que j'ai bien connu aussi, disait un peu la même chose. C'est-à-dire que l'éloignement de sa propre langue, en fait, est un exil qu'on peut transformer en exil positif. C'est-à-dire ça permet de regarder son pays, de regarder sa culture, et surtout de regarder sa langue différemment. Mais Semprin, lui, va écrire pratiquement la totalité de son œuvre en français. Régulièrement, lorsque nous nous voyons, il me disait... Alors, cette fois-ci, le prochain livre, je m'y mets, ça y est, j'écris en espagnol. Et en fait, c'est-à-dire que le prochain livre, il l'écrivait en français, parce que sa langue d'écriture, c'était le français, mais tout en restant espagnol.
Il n'a jamais, par exemple, accepté la nationalité française qu'on lui a proposée souvent.
Non, il y a une chose qui est assez passionnante. Lorsqu'en 88... Solana l'appelle, il est ministre de Felipe González, il l'appelle en pleine nuit. Mm-hmm. Il est 2-3 heures du matin. Et lui pose la question suivante, il dit « Hombre, tu es français ou espagnol ?» Alors, il dit « Mais tu te fous de moi, il est 2 heures du matin, qu'est-ce que tu sais bien que je suis espagnol ?» Alors, il lui répond aussi « Mais non, je suis schizophrène, je suis bilingue, enfin bon. » Et Solana lui dit « Arrête, tu es français ou espagnol ?» Il lui dit « Mais je suis espagnol, jamais je ne prendrai la nationalité française. » Alors donc, tu peux devenir ministre de la Culture. Tu me laisses quelques minutes et je réfléchis. Donc la langue française était essentielle pour Semprin, comme la nationalité espagnole. C'est-à-dire, c'est vraiment les deux piliers. Nationalité espagnole, je reste espagnol, mais j'écris en français.
Et cette langue française, c'est à Henri IV qu'il l'apprend, où il rencontre le jeune Michel R. Et c'est avec lui qu'il va intégrer les réseaux de résistance.
Un réseau de résistance anglais qui s'appelle Beckmaster. Hein, alors que c'est un réseau de... Semprin se plaît à rappeler que c'est un réseau de résistance qui n'est ni communiste ni gaulliste.
Mm-hmm. Qui est anglais.
Et qu'en fait, qui est chargé de réceptionner des armes et de redistribuer les armes. Ça le conduira à cet engagement. Il est jeune à l'époque, hein.
19 ans.
19 ans. Il est quand même très très jeune. Qui le conduira à une arrestation qui le mènera à Buchenwald.
Alors Buchenwald, il est directement enrôlé, si l'on peut dire, par l'organisation communiste du camp. Et ça, il en parle beaucoup finalement de cette espèce de famille communiste de Buchenwald.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est là où vraiment il devient communisme, mais communiste à la manière que pouvait l'être Georges Semprin. C'est-à-dire, ce n'est pas un communisme dogmatique. D'ailleurs, il finira par partir de cette famille dès lors qu'il la trouvera trop dogmatique.
Partir ou être un petit peu jeté dehors, peut-être.
Oui,
aussi.
Enfin, alors, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est à Buchenwald qu'il prend conscience d'un certain nombre de choses, et il prend d'autant plus conscience qu'il peut agir puisqu'il parle allemand.
Mais alors, c'est un combattant, ça n'est pas une victime, et se déporter finalement est un résistant français, mais qui combat, et qui combat aussi avec l'Espagne en tête. Il combat pour la France, mais il combat peut-être aussi pour l'Espagne.
Oui, il combat avec l'idée qu'un jour, il va retourner en Espagne pour poursuivre le combat, et effectivement, ça passera par un certain détour, mais il retournera en Espagne en 53 sous différents pseudonymes, c'est-à-dire c'est l'époque où il est interdit évidemment de il ne peut pas retourner en Espagne, donc il intervient sous des noms différents dans les cachettes, dans des hôtels. Et d'ailleurs, autre anecdote, il était très beau et
C'est important pour vous, ça, je crois.
Oui, parce que souvent, on retombe sur cette affaire-là. C'est-à-dire que moi, j'ai recroisé d'anciens amis résistants communistes de Semprin, et qui tous m'ont dit, mais on espérait qu'ils n'allaient pas venir chez nous parce qu'ils nous piquaient nos femmes. Mm. Donc, c'est-à-dire que quand on savait que c'était Semprin, on envoyait notre cousine, nos mères, nos femmes à la campagne parce que Semprin, c'était terrible.
C'était un charisme aussi très important.
Alors, c'est anecdotique, mais ça a aussi son importance dans le personnage, je trouve.
Alors, dans votre livre, Georges Semprin, L'écriture de la vie, finalement, vous parlez assez peu de ce moment de Buchenwald, et pourtant, c'est évidemment fondateur. Est-ce que c'est parce que lui-même l'a raconté, et l'a raconté finalement si bien, que vous n'avez pas voulu insister là-dessus?
Il y a sans doute un peu ça, mais disons que dans le portrait que j'ai voulu dresser dans ce livre, au fond, c'est à la fois absolument fondamental, évidemment. Mais ça ne concerne que quelques années de sa vie. Et je pense que, je me trompe peut-être, mais la vie en Espagne enfant, la mort de sa mère, la guerre d'Espagne, le retour en Espagne, les différents voyages à Madrid, l'hésitation entre la langue espagnole et la langue française pour choisir la langue française, tout ça, finalement, a aussi une très grande importance. Et c'est ça que j'ai voulu laisser apparaître ou mettre à jour dans le livre.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Gérard de Cortance, nous allons continuer avec vous cette conversation sur Georges Semprin dans quelques minutes. Mais avant cela, je vous présente Éric Dussert du Matricule des Anges qui vient nous parler du sommaire de sa revue. Bonjour Éric.
Bonjour Mathieu.
Le Matricule des Anges du mois de février qui offre sa une à l'écrivain Patrick Varetz, un romancier de la maison POL qui publie depuis 2010 avec une belle régularité dans une œuvre adossée à sa propre existence. Son sixième roman, Sous vide, évoque une période transitoire entre la violence de l'enfance et le changement impératif.
En effet, Sous vide, c'est le roman de la trentaine, la trentaine de Patrick Varetz, qui est l'alter ego de Patrick Varetz. Après avoir été étudiant aux Beaux-Arts, après avoir été cuistot du champ de fouilles de Françoise Claustre dans le Sud, ou apprenti cinéaste à Barcelone, après avoir gagné beaucoup d'argent comme publicitaire, Patrick Varetz, j'essaye de pas me tromper, c'est bien l'alter ego dont il est question, décide de prendre sa propre course et de quitter les Faux-Fuyants. Il se révèle d'une très grande détermination, je le cite, « Je ne travaillerai pas, je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfant, pour éteindre le sang, je serai écrivain. » Et ce personnage est habité par une histoire familiale très douloureuse. Il a découvert le livre et la lecture auprès de son grand-père, ça a été son baume. Et ça a été cette magie spécifique de la lecture et du livre qui le sorte de son marasme personnel, de ses difficultés. Au point de parvenir à l'âge de 45 ans au statut d'écrivain. Et je veux dire d'écrivain, de vrai écrivain, avec un vrai éditeur. Et quel éditeur, puisqu'il s'agit de Paul Ochakowski-Lawrence, et qu'il publie donc depuis 2010 six romans consécutivement. Aujourd'hui, il appartient à ce qu'on appelle, c'est assez récent comme intitulé, mais l'école de Lille, autour de personnages comme Lucien Suel ou Amandine Day. Et il précise encore quelque chose très intéressant sur son travail. « Mon travail, dit-il pour l'heure, s'ingénie à témoigner d'un monde sans espoir, sans amour et sans Dieu, tel qu'il m'a été donné de le découvrir. Et dans le même temps, mon travail a valeur de profession, de foi. » Alors il ajoute toutefois « Je ne voudrais pas être relégué dans la case du roman social ou naturaliste. »
Également au sommaire du Matricule des Anges, une histoire familiale terrible, là encore, est à l'origine du roman du Libyen Hicham Matar, « La terre qui les sépare », traduit de l'anglais par Agnès de Sartre pour les éditions Gallimard.
Hicham Matar est le fils d'un homme qui a été ambassadeur de Kadhafi à New York dès la prise de pouvoir du dictateur en 69. Mais ce père, donc le père d'Hicham Matar, prend très vite ses distances avec le dictateur. Il s'exile en Égypte et utilise sa fortune pour lutter contre le dictateur et tenter de l'évincer. Seulement, il est enlevé au Caire en 90, probablement avec la complicité du régime égyptien, et il est emprisonné à Abu Salim, la prison assez tristement connue, puisqu'en juin 96, 1270 prisonniers politiques avaient été exécutés sommairement. Et depuis, Hicham Matar cherche son père. La terre qui les sépare, c'est le récit de cette quête et de ses retrouvailles avec la Libye libérée du fléau. Mais on voit que le drame familial ne quitte jamais le roman géopolitique. Son cousin Ahmed, qui a participé au combat de Tripoli, s'est engagé aux côtés des rebelles syriens. Avec ces mots, nous devons abattre ces dictateurs.
Dernier élément de votre sommaire, c'est Denise au Ventoux de Michel Julien, c'est chez Verdier. Et Michel Julien intervient sur un territoire qui est là quand même plus tendre, celui des rapports d'un homme avec son chien.
Oui, le sujet semble incontournable. Léon Cladel avait commencé au 19e siècle avec sa Kyrielle de chien, c'était en 1885. Mais le chien et son écrivain, si l'on peut dire, est en quelque sorte un marronnier de la littérature. Et en particulier au 19e siècle, où les auteurs font toutefois des miracles pour éviter de sombrer dans le convenu. On peut relever « Nous les chiens » de Paul Achard, « Ma vie, mon chien » de Jean-François Chasles, « Les mémoires de la chienne Miette » de Marie-Louise Payron, et puis je passe, mais c'est une façon de parler, sur le « Topsy » de Marie Bonaparte, sur « Le cœur de chien » de Bulgakov, etc., etc. Je n'oublie pas cependant l'extraordinaire « Nous de mon chien » de François Karadec, qui attend une édition séparée depuis longtemps maintenant. C'est un véritable chef-d'œuvre. Et à côté du Karadec, on pourra ranger le livre de Michel Julien, qui s'est mêlé ironie, tendresse et émotion profonde, tout en donnant à l'occasion, un coup de croc. Son bouvier bernois, puisque c'est sa race, n'est pas une chienne comme les autres. D'ailleurs, elle s'appelle Denise.
Bon, vous n'avez pas vérifié s'il y avait des chiens dans l'œuvre de Georges Samprin. Je ne crois pas. Je n'en ai pas vu.
Je ne suis pas allé voir.
Gérard de Cortan, c'est non également de la tête.
Je ne voudrais pas m'engager trop sur ce terrain-là, mais j'ai le sentiment que, en tout cas, il n'y avait pas de chien.
Non, il n'y avait pas de chien.
Non, il n'y a pas de chien, Georges.
On ne le voit pas non plus avec des chats.
Non.
Souvent.
Bon, conversation au sommet. Merci Eric Dussert.
Merci.
Tout cela et bien plus encore, évidemment, dans le Matricule des Anges. Deuxième partie de cette compagnie des auteurs consacrée jusqu'à jeudi à Georges Samprin. Je suis en compagnie justement de Gérard de Cortance, auteur d'un essai biographique intitulé « Georges Samprin, l'écriture de la vie ». Il a été réédité dans la collection Folio. Et la vie de Samprin, justement, eh bien, elle se confond largement. On a déjà commencé à le voir avec ses engagements politiques.
De toute façon, vous savez, la politique et la littérature, pour moi, ont toujours été un travail sur le langage. La politique que j'ai faite, moi, c'est une politique qui était de convaincre les gens, de leur expliquer le monde d'une certaine façon, en fait de réveiller à travers un langage des consciences et des activités. Donc finalement, je ne me sens pas très loin de moi-même politique en travaillant sur le langage.
Et même lorsque vous étiez dirigeant du Parti communiste espagnol, vous aviez des préoccupations linguistiques.
Écoutez, j'étais dirigeant du Parti communiste espagnol dans des conditions très précises, dans la clandestinité espagnole. Pas du tout, dans les bureaux de l'émigration, ça n'aurait pas été possible. Et dans cette clandestinité espagnole de Madrid, le langage était primordial, parce que justement, le discours franquiste, le langage de la vie quotidienne franquiste, il fallait le briser d'une certaine façon, en rappelant une mémoire de lutte de l'Espagne, et en présentant un avenir qui, je le dis, nous avons échoué, nous n'avons pas créé cet avenir. Mais en tout moins, du moins, cette illusion-là animait ce langage politique des années 50 et 60 à Madrid.
Entretien avec Jacques Duchâteau au Panorama, c'était en 1982. Au fond, tout est langage chez Semprin, Gérard de Cortance.
Oui, il dit deux choses dans l'interview. C'est vrai, il est communiste en Espagne, dirigeant entre guillemets, dans des conditions particulières, la clandestinité, et il n'est pas dans les bureaux. C'est-à-dire, en fait, ce sont des actions in situ. Et il repart, après il revient en France.
Mais donc il ne reste pas forcément très longtemps à Madrid.
Non, il ne peut pas d'ailleurs, il se cache, il a parfois plusieurs appartements dans la même semaine, enfin c'est un engagement dangereux. Le deuxième point, c'est sur le langage. Lorsqu'il revient pour la première fois à Madrid en 53, il explique bien que le langage n'est plus le même. C'est-à-dire, et il a peur qu'on découvre, puisque il est censé être notamment un écrivain, un étudiant en sociologie, qui étudie la sociologie à Madrid, espagnol. Donc, en principe, il a toutes les clés du langage madrilène de l'époque. Sinon, il n'est pas espagnol, il n'est pas étudiant en sociologie. Et il s'aperçoit dans les cafés, dans les rencontres avec les gens, que plusieurs fois on dit, Enfin, d'où sors-tu? Tu connais pas tel joueur de football? Enfin, c'est le grand joueur de football actuel à Madrid. Ou tu connais pas cette expression pour demander un café? Mais attends, tu es espagnol, tu es madrilène, tu sais pas qu'on demande un café aujourd'hui parce qu'il a quitté l'Espagne en 36.
Donc il s'est inventé une vie totalement. Il a occulté ce passage à Buchenwald, qui est quand même tellement important.
Oui, et le langage, il tombe sur un langage qui n'est plus le même. Et ça, il insiste beaucoup là-dessus. Je crois que c'est très important.
Il parlait aussi du langage politique, de la façon dont on parle aux autres militants communistes clandestins.
Mais ça recoupe ce qu'on dit sur tout simplement le langage du comment demander un café, comment héler un taxi. Ça aussi, c'est un langage politique en quelque sorte. C'est-à-dire qui suit l'évolution du pays ou la non-évolution du pays dans certains domaines. Il a laissé un pays dans un certain état et ce n'est plus du tout le même pays. Et là, il faut qu'il se réadapte.
Et comment se passe le moment entre la libération des camps, où il dit que c'est une nouvelle naissance, et ces années à Espagnol? Le passage ne se fait pas tout de suite.
Non, alors le passage ne se fait pas tout de suite. Et le passage surtout à l'écriture de cette vie ne se fait pas tout de suite. C'est-à-dire, il passe par un moment de silence. Et ça, il insiste beaucoup aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas raconter ce qu'il a vu.
Il va essayer pourtant.
Il va essayer. C'est le sujet du livre, l'évanouissement, hein, en réalité. Mais l'évanouissement, bon, c'est quelqu'un qui s'évanouit au sens propre. Donc, en fait, il ne parviendra pas à écrire le livre immédiatement après la sortie des camps. Et c'est là où on voit la grande, cette problématique qui a été posée par Cartès. Cartès, alors lui, qui est très clair, hein, par rapport, je crois qu'il aime pas beaucoup Semprin. Parce qu'en fait, il dit, la façon de parler de l'expérience contre-invasionnaire, soit il y a une première façon qui est la façon dont on parle Kafka, c'est prémonitoire, c'est avant. On pense que cela va se passer comme ça. On a des antennes qui font qu'on a compris que cette chose allait se passer. La position de Cartès est différente. Lui, il témoigne. Mais ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne veut pas, c'est passer par la littérature. Or, Semprin, c'est très clair, l'écriture ou la vie. Donc, il va passer par l'écriture pour revivre.
Et pourtant, le prix Nobel de littérature, c'est à Cartes qu'on le donnera, et pas à Semprin. Je ne sais pas s'il en a été question qu'il le reçoive.
Je ne crois pas. Mais ça, c'est essentiel pour lui, cette façon de dépasser tout ça par la littérature et en même temps de témoigner. Il était obsédé par cette idée du dernier témoin. C'est-à-dire le jour où il n'y aura plus un témoin qui pourra parler de cette expérience des camps. Ça, il m'en parlait tout le temps de cette expérience-là. Et ça, c'est quelque chose qui l'obsédait et qui est aussi un des points essentiels de son travail d'écrivain.
Mais alors finalement, est-ce que c'était un écrivain? Est-ce que c'était un clandestin? Sa mère voulait absolument avoir un écrivain dans la famille. Ça a peut-être beaucoup compté aussi.
Ah, mais sa mère le disait. Et il le dit d'ailleurs je me souviens très bien de ça, dans un entretien que j'ai eu avec lui. Il m'a dit, je ne veux blesser personne dans ma famille, ni frère, ni sœur, mais tout le monde savait très bien que ma mère disait, toi, tu seras l'écrivain de la famille. Enfin, c'est toi qui raconteras cette histoire, et qui racontera notre histoire, et qui racontera aussi, donc elle ne pouvait pas le savoir, les histoires qui ont suivi. Mais son prince se vivait comme un écrivain politique.
Écrivain d'abord.
Mais écrivain d'abord.
Parmi tous ces autres engagements.
Je pense qu'il se vit d'abord comme écrivain. Et que son engagement principal, c'était un engagement par rapport à la langue.
Pas tout de même Gérard de Cortance chez Georges Samprin, un plaisir à la clandestinité, cette clandestinité dans laquelle il est entré très jeune, déjà durant la résistance, il a appris les codes de la clandestinité et à Madrid pour le Parti communiste espagnol.
Mais vous
c'est
savez,
pas un plaisir.
J'ai hésité parce que le livre que j'ai écrit, c'était sur au fond sur les trois Madrid de Georges Samprin.
Mais le Madrid de l'enfance, le Madrid de la clandestinité et le Madrid ministre, en fait.
Ministre. Mais en fait, j'ai failli, et je vous demande de me croire, j'ai failli écrire le livre, j'ai donné comme titre au livre Georges Samprin, le clandestin. Parce que je crois que fondamentalement, c'était un clandestin. Et d'ailleurs, pour revenir à la langue, on lui disait souvent en Espagne, mais tu parles tellement bien... espagnol, tu peux pas être français. Et on disait en français, tu parles tellement bien le français que tu peux pas être espagnol. Donc il était à cheval comme ça sur les deux langues, les deux pays, les deux cultures. Et je crois qu'il était clandestin absolument partout. Il était clandestin lorsqu'il écrivait une pièce de théâtre. Il était clandestin dans le cinéma. Costa Gavras en parlait beaucoup mieux que moi. Il était clandestin lorsqu'il écrivait, il était clandestin lorsqu'il faisait de la politique, parce qu'il avait une façon très particulière et bien à lui de s'inscrire dans le Parti communiste. Il était clandestin, évidemment, en Espagne, lorsqu'il est retourné entre 53 et 62, sous des faux noms. Et je crois qu'il adorait ça aussi, c'est-à-dire circuler sous des faux noms, sous des fausses identités, avec de faux papiers, en ne sachant jamais vraiment, au fond, qui il était. Par exemple, lorsqu'il rencontre Hemingway en 56. Et Hemingway, moi, qui était obsédé par la police, parfois à juste titre d'ailleurs, la police, le FBI, enfin bon, il voit ce jeune homme en 56 arriver, on lui présente comme étant un étudiant en sociologie, et il se demande vraiment qui c'est. Il pense que c'est un journaliste qui va lui extirper des informations. Et donc le premier contact se fait plutôt est plutôt assez froid. Bon, après, explique Samprin, il y a une sorte de communauté, enfin entre eux, ils vont parler de la corrida, ils vont parler de la guerre d'Espagne. Enfin,
Samprin, il y a des personnalités qui sont compatibles en tous les
oui,
cas.
Oui, enfin voilà. Même s'il donne d'ailleurs une image assez triste, assez pitoyable d'Hemingway, qui est cet immense écrivain, mais qui commence à vieillir, qui est martyrisé par sa femme, et Samprin est très étonné d'être en face de ce monument de la littérature, et qui n'est plus qu'un vieillard chenu, et qui, enfin voilà, une sorte de déception qui s'installe, mais c'est Hemingway.
Mais est-ce qu'il y a un centre quand même à Georges Semprin, parce que toutes ces facettes, ce plaisir de la clandestinité, c'est quand même un plaisir de la fuite, d'une certaine façon, de quelque chose, les pseudonymes. Est-ce que on peut trouver, vous qui l'avez côtoyé, Georges Semprin tel qu'il est au fond de lui, si cette question a un sens?
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui refusait absolument d'être enfermé. C'est-à-dire, quand on l'expliquait qu'on avait, semble-t-il, compris ou appréhendé tel aspect de son œuvre, de sa vie, il prenait la tangente, en réalité. Et il disait, oui, c'est ça, mais en même temps, on pourrait préciser, peut-être indiquer que c'est pas exactement cette chose-là, tu vois, on pourrait, voilà. Alors, il y avait à la fois une volonté de précision, d'aller vraiment, de nommer exactement la chose, mais en même temps, je pense qu'il y avait un côté, je me protège en fuyant.
Alors la fuite, c'est aussi après la fuite de l'Espagne. Sa mission s'achève au Parti communiste espagnol, puisqu'on l'a poussé dehors, il s'en va, enfin un peu les deux. Et là, il revient à Paris, il va écrire en 1963 Le Grand Voyage. Et c'est finalement à partir de là qu'il devient réellement écrivain, donc très tard, Gérard de Cortés.
Voilà, il devient écrivain très tard, et c'est vraiment à ce moment-là qu'il commence, au fond, à parler de son expérience concentrationnaire. Avant, il en parlait assez peu, en réalité. Enfin, a posteriori, quand on sait qu'il y a eu cette expérience et qu'on relie l'œuvre antérieure, évidemment qu'on peut trouver des références, mais en fait, vous avez raison. Le premier texte où il aborde cette question, c'est à cette époque-là.
Et donc, de 64 à 77, il n'écrira pas une seule ligne en l'espagnol. Hein, c'est ce que vous disiez. Écrivain, mais aussi scénariste, d'abord avec Alain René.
Le cinéma a joué un rôle fondamental. Ça fait partie aussi de son côté, pédagogue, hein, qui lui vient, on l'a dit tout à l'heure, du père. C'est-à-dire que l'œuvre, la parole, la littérature, la création, l'objet intellectuel, ça doit aider à faire comprendre le monde. Ça doit aider à faire changer les choses. C'est-à-dire, ce n'est pas un acte, c'est pas de l'art pour l'art, ce n'est pas un acte gratuit. Et ça, je crois que son engagement d'écrivain est aussi un engagement politique. C'est-à-dire, il écrit pour faire comprendre et pour que les choses changent.
Et donc ça va être le cas avec La guerre est finie d'Alain René, qui met en scène un jeune communiste espagnol en exil à Paris, lequel assure la liaison entre les militants exilés en France et les militants en Espagne. Donc là, il y a une autobiographie qui est évidente.
Oui, c'est-à-dire qu'il il invente, je pense qu'il invente un genre littéraire en réalité, c'est-à-dire cette façon de mêler la biographie à l'autobiographie, de faire de lui un personnage de roman. Et il me disait souvent, tu sais, au fond, c'est facile pour moi d'écrire, je n'ai qu'à me baisser pour ramasser dans ma généalogie, dans mon histoire, des sujets de livres. Alors c'était à la fois une boutade, et en même temps, je crois qu'il il avait fondamentalement raison.
Et dans un sens, il a couvert quasiment l'ensemble de sa vie par tous ses livres.
Absolument, y compris comme il y a l'ensemble de sa vie, mais aussi les gens importants. La Suissesse, il en parle souvent. Le père, il en parle. La gouvernante, c'est cette vieille femme, qui est un peu la mémoire de l'Espagne, qui a côté un peu sorcière. C'est un de ses derniers livres et qu'il écrira en espagnol. Il reviendra à la fin de sa vie à l'écriture en espagnol.
Merci beaucoup, Gérard de Cortance, d'être venu parler avec nous de la vie de Georges Semprin, auteur auquel vous avez donc consacré un essai. Georges Semprin, l'écriture de la vie, reparu en 2004 dans la collection Folio chez Gallimard. Je signale également Le Madrid de Georges Semprin, que vous avez fait paraître aux éditions du Chêne en 1997. Demain, c'est Maria Ruiz Galbete, maître de conférence en études hispaniques à l'Université de Grenoble, qui sera à ce micro pour parler notamment plus en profondeur de l'écriture ou la vie et de la période de captivité de Georges Semprin. Mais tout de suite, c'est le moment de la poésie avec Jacques Bonafé. Il nous fait redécouvrir cette semaine la poésie de Ted Hughes.
Bonjour. Quelques instants, quelques pages tournées avec Ted Hughes, poète anglais natif de Mytton Road dans la Calder Valley, décédé en 94. Rural, la poésie anglaise est foncièrement rurale, dit la préface des poèmes parus chez Gallimard. Nous écoutons d'abord Birthday Letters, l'un de ses derniers recueils, une correspondance avec l'ombre de Sylvia Plath, la poétesse américaine, à laquelle il est tragiquement associé. Fièvre. Tu avais la fièvre. Tu étais malade pour de bon. Tu avais mangé quelque chose d'avarié. Tu étais couché sans défense. La fièvre te faisait perdre la tête. Tu pleurais, réclamais l'Amérique et son armoire à pharmacie. Tu t'agitais sur le lit, galion amarré dans la maison espagnole avec ses volets que le soleil essayait de percer comme si c'était une tombe. « Aide-moi, murmurais-tu, aide-moi. » Tu divaguais. Tu rêvais que nous étions en train de franchir le couvercle du puits. Et à ton réveil, tu voulais franchir le couvercle du puits, le seul moyen d'accéder à la fraîcheur de l'eau. La fraîcheur du puits sombre, le meilleur endroit pour trouver l'oubli de ton chaos brûlant et du virus étranger. Tu allais forcément mourir, tu en étais sûr. J'allais et venais, j'étais bonne d'enfant, j'aimais cette idée, j'aimais la sensation de crise, d'urgence vitale. Je sentais que les choses étaient devenues réelles, comme une voix familière. Ma mère, soudain, s'est réveillée en moi. Elle est arrivée, sachant exactement ce qu'il fallait faire. J'ai préparé une énorme soupe, carottes, tomates, poivrons et oignons, arc-en-ciel chatoyant, élixir fumant. Il fallait que tu deviennes un canal, un conduit de pure vitamine C, je l'avais assuré. C'était comme ça que Voltaire avait réchappé à la peste. Il fallait que je t'imprègne, que je t'inonde de ce bain d'essence en ébullition. Je l'ai servi à la cuillère, dans ton bec d'oisillon sans défense, doucement, fermement, patiemment. D'heure en heure, j'ai essuyé ton visage ravagé de larmes, ton visage épuisé, défait par la détresse, l'abandon. Une cuillerée encore que tu avalais comme la vie. Sanglotant, je vais mourir entre chaque gorgée. Je déchiffrais sur toi les signes. À écouter tes pleurs, tu étais déjà au-delà du désastre, au-delà du pire. Et je me demandais à quel point est-elle malade. Est-ce qu'elle exagère? Et je reculais juste un peu, juste pour faire contrepoids, juste pour la symétrie du côté de la patience, une patience un peu sceptique. Si c'était supportable, pourquoi en faire un tel drame? Je te parlais, te rassurais, ça va maintenant. N'aie pas peur comme ça, ce n'est qu'un virus, ne le laisse pas te démolir. Mais ce que je voulais dire, c'était « arrête de crier au loup ». D'autres pensées, des pensées familières craintives ne pouvaient s'empêcher de me traverser. « Arrête de crier au loup, ou bien je ne saurai pas, je n'entendrai pas, lorsque ce sera grave, vraiment grave. » Cela semblait facile de regarder de telles pensées venir à point si nommées. J'avais tout mon temps pour penser. Elle pleure comme si la plus impossible de toutes les horribles choses s'était passée. C'était déjà passé, se passait encore, et comme s'il était déjà trop tard pour espérer le moindre secours. Tu portais un poids trop grand, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. L'homme de pierre a préparé la soupe, la femme en feu l'a avalée.
Ted Hughes, lu par Jacques Bonafé. Dans quelques secondes, il sera à 16h sur France Culture et il vous attend, c'est Nicolas Martin pour la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.